dans la théorie surréaliste, sur le rêve, l'imaginaire, le merveilleux, et je voudrais vous demander d'où vient chez vous, presque immédiatement, le retrait, en même temps que l'intérêt, mais enfin tout de même le retrait, en direction d'une part d'un fonctionnement logique, linguistique, et d'un autre côté politique, comme il se marquera plus tard de façon précise. N'avez-vous pas d'autre part l'impression que la lutte entre idéalisme et matérialisme se poursuit à l'intérieur de cette autre formule que l'on appelle surréalisme? N'avez-vous pas l'impression que les équivoques, comme celle introduite par la valorisation de la poésie et l'obstination à rester dans un cercle psychologique et moral, sont révélatrices de cet état de fait, de cette lutte? Je voudrais vous demander ce que vous pensez, par exemple, à ce moment, de l'écriture automatique, de votre place par rapport au texte qui s'écrit. Comment se formule pour vous ce qui me paraît essentiel et non reconnu dans votre travail en général, à savoir une sorte d'objection qui prend tour à tour et qui prendra tour à tour l'aspect du monde concret comme langue, si on peut dire, et de la langue comme monde concret. Bref, cette espèce de primat du signifiant que vous poserez et développerez plus tard en fonction d'une sorte de cosmogonie, et là c'est votre couple dialectique, parti pris des choses, compte tenu des mots, puisque c'est là une terminologie dont vous êtes l'inventeur, c'est-à-dire l'insistance sur les mots et les choses. Par conséquent, pouvez-vous nous dire à ce moment-là comment vous vous situez par rapport à la révolution surréaliste et à sa théorie?
Alors, je suis légèrement plus jeune, à peine plus jeune que Breton, que Aragon, un peu plus nettement d'Éluard, qui a 4 ou 5 ans de plus que moi. À ce moment-là, je ne les voyais absolument pas. Enfin, j'étais enfermé d'abord à la Sorbonne, ensuite au régiment, ça, il aurait fallu en parler. Enfin, j'ai été mobilisé pendant la guerre. Je savais très bien que je pouvais être tué. Que disais-je à ce moment-là? Qu'avais-je dans ma capote et dans mon sac de fantassin? Eh bien, j'avais l'origine de la tragédie de Nietzsche. Vous voyez, ça peut être un point assez intéressant. Il se trouve que pendant les deux guerres, et pas du tout parce que je voulais faire, passer à l'ennemi. Eh bien, dans la première, c'était l'origine de la tragédie de Nietzsche, auteur allemand. Et dans la seconde, ça a été le second Faust de Goethe. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été comme ça. C'était pas du tout pour prendre parti pour les Allemands. Ça s'est trouvé seulement comme ça. Alors, à ce moment-là, j'ai donc connu la Nouvelle Revue Française et mes textes ont été immédiatement acceptés. Quels étaient ces textes? Eh bien, ces textes s'appelaient Trois Satires. Et ça, c'est assez significatif. J'étais donc dans la révolte, si vous voulez, puisque un homme qui écrit des satires est évidemment quelqu'un qui n'est pas d'accord, n'est-ce pas? Et ces textes, enfin, je concevais cela, il devait y en avoir davantage, que trois, comme une espèce de galerie, si vous voulez, de figures, comme des têtes de massacre. Enfin, il y a l'industriel, n'est-ce pas? Il y a aussi l'employé, il y a aussi l'ouvrier, il y a aussi l'artiste, qui a été publié aussi. Et il pouvait y avoir encore l'évêque ou le général, n'est-ce pas? C'était donc des textes très axés vers une action satirique. La littérature est considérée comme une arme à ce moment-là. Il se trouve que ces textes étaient considérés comme pouvant passer dans cette revue, la Nouvelle Revue Française, ils y ont paru. D'autre part, Paulhan, quand je l'ai vu pour la première fois, m'a dit « Connaissez-vous mon ami André Breton ?» Non, je ne connaissais pas André Breton. Et ce nom est arrivé sur moi, tout simplement, comme une information. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder de ce côté-là, et il m'a semblé qu'évidemment, ces garçons n'étaient pas si différents de moi. Alors, à ce moment-là, qu'ai-je fait? Eh bien, comme vous le dites, je me suis retiré. Peut-être cela vient-il du fait que je ne suis pas très doué pour la politique littéraire, que je ne sais pas et que je n'ai jamais su très bien si je voulais faire mes affaires, et que, d'autre part aussi parce que le monde littéraire que j'entrevoyais quand j'allais à la Nouvelle Revue Française me plaisait pas tellement que ça. Il faut dire que à ce moment-là, mon père est mort, gros événement, enfin, pour ma sensibilité, qui a été très déterminant aussi, et que j'ai été engagé gentiment par Gaston Gallimard, parce que j'avais besoin de gagner de l'argent, et j'ai été nommé dans l'administration des éditions Gallimard, qui à ce moment-là ne comptait d'ailleurs que très peu d'employés. Je m'occupais de la fabrication des livres. Et là, évidemment, j'avais affaire à un tas d'écrivains, de poètes, etc., qui me répugnaient plutôt. Enfin, il faut bien que je le dise. Moi, quand j'étais libre, j'allais au café, enfin, et puis j'allais au cinéma, et puis je voyais des filles, et puis il ne s'agissait pas pour moi du tout de frayer avec le monde littéraire. Donc je me suis retiré de cette façon-là. D'un autre côté, je me suis retiré à proprement parler, je me suis mis presque hors la loi au point de vue de la société bourgeoise, puisque je suis arrivé à vivre avec une ou des filles qui menaient une vie un peu semblable à celle que menaient les anarchistes, faisaient, si vous voulez, de la reprise individuelle, enfin, comme on dit dans le vocabulaire de l'anarchie, c'est-à-dire qu'il y avait en fait des amis bourgeois riches et que moi j'en profitais. Hein. Donc, il y avait une sorte de mise hors la loi de ce point de vue-là. Mais évidemment, dans ces cafés, qui étaient ces cafés des quartiers latins, j'apercevais des surréalistes aussi, des gens comme Desnos ou comme Vitrac, mais jamais je ne suis entré en relation avec eux. Enfin, là aussi, aucune attirance, il me semblait. Des demi-selles, comme on disait alors, des anarchistes, je ne peux pas dire de salon tout à fait, mais enfin des littérateurs, des poètes, des gens qui vraiment ne menaient pas la vie, enfin, de quelqu'un qui marche contre l'ordre établi et qui écrit contre l'ordre établi. Par ailleurs, alors, j'ai rapidement quitté les bureaux de la Nouvelle Revue Française, parce que je ne pouvais pas m'astreindre à ce travail, parce qu'aussi j'avais envie à chaque instant d'envoyer mon encrier à la figure de M. Cocteau, ou de M. je ne sais plus qui, enfin, au lieu de prendre ses instructions pour la fabrication de ses livres. Et je vivais tout à fait retiré, alors dans l'appartement que je partageais avec ma mère, qui était venue, après la mort de mon père, habiter Paris. Et je me retirais dans un approfondissement de mon écriture. Il est très significatif que les seconds groupes de textes que j'ai envoyés à la Nouvelle Revue Française après l'acceptation des premiers, eh bien, c'était un groupe de textes qui étaient des textes brefs, qui auraient pu être imprimés en italique comme des poèmes, si on veut, mais qui étaient axés sur les problèmes du langage à proprement parler. Enfin, il y en avait un qui s'appelait du logoscope, c'est-à-dire regarder le logos, regarder les mots, n'est-ce pas ? Et où je faisais une analyse d'un mot, comme le mot souvenir, où il y a des consonnes, SVNR, n'est-ce pas, qui me semblait être quelque chose comme son squelette, et puis des voyelles, O-U-E-I, qui me semblaient être comme sa chair, n'est-ce pas ? Et là, on peut rappeler le mot de Mallarmé, à propos des mots anglais, dans l'enveloppe sonore du mot, il y a donc une essence réelle, se rapprochant de l'organisme dépositaire de la vie, le mot, dit Mallarmé, présent dans ses voyelles et ses diphtongues, comme une chair, mon travail, si vous voulez, poétique, si on veut l'appeler ainsi, porté là-dessus. J'ai à ce moment-là écrit aussi d'autres textes qui sont réunis dans Proèmes ou ailleurs, comme Naissance de Vénus, qui est publié en tête du grand recueil, tout de suite après le poème liminaire qui est sur la mort de mon père, n'est-ce pas, qui est une espèce de dédicace générale de mon œuvre à mon père, eh bien ce texte que je décris, la naissance de Vénus sur une conque sortant de la mer, et là je vois très bien où je l'ai écrit, c'est une plage près de Aguet en Méditerranée, eh bien il s'agit là d'un exercice sur l'indicatif présent, hein, et d'autre part sur les deux points. Au point de vue de la ponctuation, il n'y a que des deux points et il s'agit de l'indicatif présent. Il y a aussi un autre texte qui est dans le poème qui s'appelle « L'imparfait ou les poissons volants », n'est-ce pas, qui est une étude sur le temps de l'imparfait, le temps grammatical de l'imparfait. Ceci me paraît assez significatif. Alors, ces textes ont eu beaucoup de difficultés à être admis. Rivière, qui n'était pas encore mort, mais il était déjà gravement malade, et il devait mourir de cette maladie, avait accepté du logoscope. Mais une difficulté s'était élevée entre nous au sujet de l'importance des caractères, parce que je désirais que chacun de mes textes, puisqu'ils étaient rares, fasse effet et donc soit publié dans des caractères vaniteux, n'est-ce pas? Eh bien, il s'est élevé une difficulté. Poulenc, qui est venu à la suite de Rivière, n'a pas publié ses textes qui sont restés enfouis pendant des années, qui je n'ai retrouvé que plus tard. Le fait est que je me retirais donc à la fois de la nouvelle rue française, comme je viens de vous le dire, n'est-ce pas, d'une certaine façon, et d'autre part, je me retirais du surréalisme, c'est-à-dire que je n'y adhérais pas, et que si les questions qu'il posait m'intéressaient, j'étais tout à fait contre, d'une part, leur attitude spectaculaire, le fait qu'ils, et je pense qu'ils avaient raison de le faire, puisque c'était aussi leur tempérament, et que c'était probablement utile, c'est-à-dire de faire des manifestations publiques et de se poster en ennemi, enfin de tout, et de la façon, comment dirais-je, quotidienne et constante, d'être comme une espèce de comité de salut public, enfin si on veut. Naturellement, il y avait eu avant eux Robespierre et il y avait eu avant eux l'autre amant et Rimbaud, n'est-ce pas? Et je me rendais compte dès alors de ce que j'ai dit plus tard, c'était qu'ils ne faisaient dans une certaine mesure que redire plus faiblement et en groupe ce que Rimbaud ou l'autre amant avaient fait seul en face de leur papier blanc. Et de façon beaucoup plus forte, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'expression était plus faible. Quant à moi, quelle était mon attitude et, comme vous dites, ma place vis-à-vis du langage ou de l'écriture des mots, n'est-ce pas? Ma place devant le texte, au moment où il s'écrivait. Eh bien, d'une part, ma place, je l'ai dit, était en retrait, c'est-à-dire que mon but... Dans les Trois Satyres, c'était quelque chose comme une action guerrière. Mais d'autre part, j'ai pensé très rapidement, et ça correspond davantage à mon tempérament, que les armes doivent être préparées soigneusement et dans le secret. C'est-à-dire que c'était plus, si vous voulez, un sabre ou une flèche, mais c'était une bombe que je voulais préparer. Et je voulais que chacun de mes textes soit quelque chose comme une bombe. C'est aussi vous dire, n'est-ce pas, que je ne participais donc pas aux actions extérieures, que je me renfermais et que je préparais mon engin.
En quoi votre pratique à ce moment-là se distingue-t-elle, justement, de la pratique surréaliste qui consiste à créer une espèce de vacuité et de déroulement du langage intérieur, de l'écriture automatique, donc, en quoi ce que vous appelez la préparation de la bombe, de l'engin, en quoi cette pratique, tout en faisant sa part à un irrationnel que j'aimerais que vous nous définissiez, se distingue-t-elle des textes qui viennent toujours comme des textes, justement, voulant rendre compte du fonctionnement de l'esprit?
Mais là, je vais revenir aux choses les plus concrètes et les plus exactes. Dans l'appartement où je vivais avec ma mère, j'avais arrangé une petite pièce, n'est-ce pas, qui était un ancien cabinet de toilette, où il n'y avait qu'une table. Cette pièce était sans fenêtre, et je ne pouvais pas y vivre longtemps, vraiment un peu comme un anarchiste travaillant au secret. Quelles étaient mes armes? Eh bien, au mur, j'avais épinglé un alphabet en gros caractères, et sous la table, il y avait un litret. Je travaillais donc à préparer ma bombe avec les lettres et avec les mots. Maintenant, qu'est-ce que je fourrais là-dedans? Quelle était la poudre? Eh bien, c'était évidemment, en une certaine façon, l'irrationnel. Et vous comprenez bien que je ne pouvais pas faire de l'écriture automatique. Enfin, il ne s'agissait absolument pas de ça, puisque chez moi, je travaillais en général les pieds sur la table pour ne pas travailler comme on travaille à l'école, pour me mettre dans un espèce d'état second, dans lequel la nécessité complète passant par mon corps, n'est-ce pas, et aboutissant à ma plume par l'intermédiaire de mon bras, ce que j'inscris est une espèce de trace de ce qu'il y a de plus profond en moi à propos de telle ou telle notion, n'est-ce pas? Alors, c'est là que s'insèrent les premiers textes à l'heure du parti pris des choses et nous en parlerons plus tard. Je travaillais donc avec l'irrationnel venant de la profondeur de mon imprégnation enfantine, venant du fond de mon corps. Et là, ce n'est pas si loin, si vous voulez, d'une démarche comme celle d'Artaud, mais avec cette différence essentielle que j'avais l'alphabet sur le mur, le dictionnaire sous moi, et que je savais parfaitement ce que j'allais faire. Et ce que je faisais était un texte, et que je ne sortais pas de la langue française, et que je ne voulais pas en sortir, que j'étais assez, je ne peux pas dire clairvoyant, ça a l'air trop bête, au milieu de l'irrationnel qui sortait de moi-même, pour me rendre compte au fur et à mesure, parce que j'étais en même temps le lecteur de ce que j'inscrivais, n'est-ce pas, de ce que je traçais, immédiatement je me rendais bien compte que ça allait entrer non seulement dans la langue française, mais dans la bibliothèque française, que finalement je faisais un livre. Évidemment, ce qui est absurde en quelque façon chez les surréalistes, c'est de croire qu'il faisait autre chose que de la littérature. Finalement, tout ça est maintenant dans l'histoire littéraire, et tout ça est classé dans les bibliothèques françaises. Eh bien, moi, j'en ai été toujours conscient, et j'ai toujours été assez positif pour me rendre compte de cela. Alors, pour aller vite, parce qu'il faut que nous allions vite, n'est-ce pas, il se trouve que, quelques années plus tard, j'ai fait acte d'adhésion au groupe surréaliste. À quel moment? Eh bien, exactement au moment où ce groupe a commencé à connaître des schismes très importants, exactement au moment du second cadavre, qui était le cadavre contre Breton, et où toute la presse bourgeoise, naturellement, disait, ben, ça n'est fini, ah, nous sommes bien contents, voilà les gens de talent qui s'en vont, parce qu'ils s'en allaient à ce moment-là. Évidemment, des gens qui avaient du talent, comme, mettons, Michel Héris, comme Raymond Queneau, comme Desnos, comme Vitrac, comme Artaud, comme Limbourg, j'en oublie certainement, n'est-ce pas? Et il ne resterait guère plus que les trois têtes principales, malgré tout, enfin, qui étaient Breton, Aragon et Loire. C'est à ce moment-là où on leur donnait le coup de pied de l'âne et on disait que c'était fini, que j'ai écrit à eux trois en leur disant « Il y a longtemps que je m'intéresse à ce que vous faites et que je suis proche de vous. Je n'ai pas cru utile de vous le dire jusqu'à présent. Je vous le dis au moment où tout le monde dit que c'est fini de vous, etc. » Et j'ai fait adhésion physique, enfin au groupe, c'est-à-dire que je suis allé au 42 rue Fontaine chez Breton et je suis allé au Cyrano, qui était le café où il se réunissait à ce moment-là, et j'ai fait ça pendant un peu moins d'un an. D'ailleurs, je ne me suis jamais fâché avec l'un ni avec l'autre. J'ai seulement quitté cela pour une raison parfaitement surréaliste. Et qu'à ce moment-là, je poursuivais une jeune fille, d'ailleurs celle qui est devenue ma femme. Je la poursuivais pas tellement elle que je cherchais à l'arracher à ses parents, ce qui est une figure aussi du point de vue littéraire. Puisque la beauté adolescente, n'est-ce pas, doit être arrachée à sa famille ancienne. C'est l'histoire de Roméo qui va chercher Juliette dans le palais des Capulet, oui, sans doute, n'est-ce pas, sombre comme nous sommes, dit-il à ses compagnons, et pour aller ravir Juliette à la vieille rhétorique, à ses vieux parents, eh bien, sombre comme nous sommes, disent-ils en entrant dans la fête nocturne, c'est nous qui, avec des torches, porterons la lumière. Alors, voilà, j'étais donc dans cette situation vis-à-vis du groupe surréaliste, j'y ai adhéré, j'ai signé le manifeste qui annonçait le surréalisme au service de la Révolution. C'était donc exactement au moment de la mutation, si vous voulez, au commencement de ce qu'on appelle dans les manuels de littérature actuellement, ou d'histoire littéraire, la seconde époque du surréalisme, c'est le moment de sa politisation. Parce qu'à ce moment-là, nous arrivions en 1929-30-31, la crise financière, d'une part, et d'autre part, la montée de l'hitlérisme. Donc, la menace qui se profilait de façon très lugubre. Alors, à ce moment-là, il s'est trouvé aussi que j'ai été moi-même, par la force des choses, les exigences du temps, obligé de chercher du travail aussi parce que la famille de la jeune fille que je voulais épouser ne me l'aurait certainement pas donné si j'étais resté simplement un anarchiste de cabinet et un membre du groupe surréaliste. C'est pas pour ça que j'ai quitté les surréalistes, c'est parce qu'il fallait trouver du travail. Alors j'ai trouvé du travail, je suis entré dans une sorte de bagne qui s'appelait les messageries Hachette, n'est-ce pas, un bagne de premier ordre, avec un patron que nous avons eu finalement. Il s'est suicidé après, enfin suicidé, non, il est mort de consomption et de dépit après la signature du contrat collectif en 1937. Je l'ai décrit dans un texte qui s'appelle RC Scène et qui est publié dans le Parti Pris des Choses. Par exemple, on vivait dans des salles qui pouvaient être surveillées par des gardes-chiourmes, n'est-ce pas, qui circulaient dans les couloirs des policiers de la maison, des sortes de cages vitrées, où seuls les chefs de service avaient un peu de glace dépolie jusqu'à une certaine hauteur, mais on pouvait aussi surveiller les chefs de service, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis alors les sténos, les dactylos avaient des amendes si elles ne faisaient pas tant de frappes à la minute, etc. Ce qui explique, enfin, que vraiment j'étais tout à fait prolétarisé, n'est-ce pas? Mais alors, prolétarisé, c'est-à-dire que je ne faisais aucun texte à publier dans les revues ni surréalistes ni communistes de l'époque, mais je faisais des textes comme Europe, par exemple, enfin une revue s'appelait Europe. Je n'adhérais pas du tout au groupe des écrivains communistes, absolument pas, mais je faisais de l'action. J'ai été secrétaire adjoint du comité des cadres au moment de 1936, CGT, et nous étions en liaison dans les groupes intersyndicaux avec les syndicats du livre, du papier, et c'est d'ailleurs peu de temps après que j'ai compris qu'il fallait adhérer au Parti communiste parce que c'était le seul qui, en matière syndicale, avait une action efficace, n'est-ce pas?
Mais comment, au milieu de ces événements, gardez-vous le contact avec votre écriture même?
Bien naturellement, j'étais tout à fait furieux aussi de la façon dont je vivais, n'est-ce pas, pointant à 8h ou 8h30 du matin, puni si j'avais une minute de retard, et travaillant presque 12 heures par jour. Et j'étais furieux et je pensais que je n'existais guère, sinon dans les cellules ou dans les comités syndicaux et dans les meetings. Mais je n'existais guère quant à moi-même et à ma fonction d'écrivain. Alors, comme restait-il, pratiquement, je l'ai dit dans un texte, il me restait 20 minutes par jour. Le soir, après m'être occupé aussi de ma femme, et aussi avant que le sommeil me tombe dessus, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai écrit les textes brefs du Parti pris des choses, ou plutôt j'ai continué à les écrire, n'est-ce pas? Je mettais un abîme, comme je l'ai dit plus tard, un objet, une notion, n'importe laquelle, n'est-ce pas? N'importe laquelle. Et j'ouvrais la trappe, et j'écrivais des textes que je combinais, et que j'agençais, comme je l'ai expliqué aussi, par les mots et par les lettres et par les choses et par les boucles des consonnes et par les points sur les i et par les virgules, etc., comme des bombes. Eh bien, j'ai fait cela, c'est-à-dire la plupart des textes du Parti pris des choses ont été écrits pendant les 20 minutes qui me restaient le soir avant de m'effondrer dans le sommeil et d'où je ne ressortais que pour me précipiter dans le métro pour travailler chez Hachette. Voilà ce que j'écrivais et comment je l'écrivais à ce moment-là. C'est-à-dire que je n'ai pas lâché du tout, malgré tout, ma position qui était celle de mon loisir relatif avant que je ne commence à travailler.
Donc, parce que simultanément, vous travaillez au Parti pris des choses dans les conditions que vous venez de rappeler. Vous avez d'autre part cette prise de position politique et en même temps, la guerre, au fond, éclate presque aussitôt.
La guerre. Alors à ce moment-là, bon, j'étais donc membre du Parti communiste et j'ai été mobilisé, car j'avais déjà 40 ans en 1939, j'ai été mobilisé dans un service de COA, de comité ouvrier d'administration à Grand-Quevilly, près de Rouen. À ce moment-là, évidemment, que s'est-il passé? Eh bien, je suis resté là jusqu'au moment où l'avance allemande a fait que nous avons dû déloger. D'ailleurs, les Allemands étaient en face, de l'autre côté de la Seine, n'est-ce pas, quand nous sommes partis un beau matin. Et nous avons fait l'exode qui nous a conduit par étapes près de Blois, et sous les bombardements et sous les mitraillages de l'aviation allemande ou italienne, jusque vers Langon, que vous connaissez puisque vous êtes un peu natif de cette région. Bon, à ce moment-là, que faisais-je au point de vue écriture? Eh bien, relativement rien. Au moment où Aragon écrivait le Crève-Cœur, n'est-ce pas, où prenait son inspiration du Crève-Cœur et faisait somme toute de la poésie patriotique et sentimentale dans le style exact. Enfin, je suis presque un plagiat d'Apollinaire, n'est-ce pas? À ce moment-là, je n'écrivais que des notes qui s'appellent Souvenirs interrompus. Et je ne faisais que mon travail militaire, enfin, qui n'était pas grand-chose, c'était un travail de bureau dans le service de COA. Et puis j'ai fait l'exode et ensuite je me suis trouvé démobilisé vers 1940. J'ai retrouvé ma famille qui, de son côté, avait reflué en zone sud. Et là, brutalement, je me suis trouvé absolument sans argent et obligé de trouver une situation. Ça n'a pas été facile, parce qu'il faut dire que j'avais été mis à la porte de chez Hachette dès que la conjoncture avait été moins bonne, c'est-à-dire dès le renversement du ministère Blum, on avait trouvé des prétextes pour me ficher à la porte, en raison naturellement de mon activité syndicale et du fait que j'avais signé le contrat collectif en face de M. Scheller. Mais le fait est que j'avais donc ni situation possible. Enfin, j'ai fini par trouver une situation à Roanne dans l'assurance. Et là, alors, se place, du point de vue de l'écriture, quelque chose d'assez particulier. Il se trouve que c'est à ce moment-là que je commence à écrire les textes qui seront réunis ensuite sous le titre de La rage de l'expression, et où il ne s'agit plus du tout de textes clos et de textes sous forme de bombe, enfin, si vous voulez, mais tout à fait autre chose, d'une espèce de journal de mon appréhension de quelque objet ou de quelque notion. Voilà. J'avais, en vérité, commencé déjà un peu avant la guerre avec des textes qui s'appellent Note prise pour un oiseau. Mais c'est à ce moment-là que je les ai développés. Naturellement, j'ai resté communiste à ce moment-là. J'ai été assez rapidement en contact avec le Front National de Zone Sud, qui m'a prié seulement de me tenir tranquille, puisque c'est chez nous, enfin à Roanne, que descendaient souvent des personnalités les plus importantes du Parti communiste et du Front National pendant cette période. Je n'ai donc pu commencer à agir dans la résistance parce qu'on me demandait de fiche la paix, d'apparaître simplement comme un employé d'assurance à Roanne, parce que je ne devais pas être suspect, puisque notre appartement, en réalité, servait à des rencontres ou au logement de militants plus importants que moi. Ensuite, l'entrée des Allemands en zone sud, le fait que de Roanne, j'étais passé à Lyon, où j'ai fait partie de la rédaction du Progrès, qui était à ce moment-là entièrement résistante, mais qui a dû se saborder au moment de l'entrée des Allemands en zone sud. À ce moment-là, j'ai pu alors prendre une activité de résistance très active, puisque j'étais voyageur politique pour le comité des journalistes en zone sud, et que j'ai passé de nombreux mois à voyager en zone sud pour grouper les journalistes qui pouvaient prendre possession des journaux en liaison avec les ouvriers de l'entreprise, de l'imprimerie, etc., au moment de l'insurrection. J'ai donc mené à ce moment-là, à partir d'un village de l'Ain, Coligny, où nous étions retirés après le sabordage du Progrès, j'ai pu à ce moment-là travailler, parce que j'avais tout de même exigé, au moment où j'ai accepté ce travail de résistance, après l'avoir sollicité d'ailleurs, n'est-ce pas, je voulais le faire, mais j'avais dit, il me faut 3 semaines d'activité militante, mais 1 semaine pour moi. Et j'avais posé cette condition qui avait été immédiatement acceptée. Et j'ai pu continuer à écrire. Ensuite, j'ai continué mes textes de la rage d'expression, mais en même temps, j'ai commencé à écrire les textes plus importants qui s'appellent, par exemple, Le Volet, La Terre, etc., qui m'étaient dictés par mon désir de continuer à accomplir ma fonction proprement d'écrivain.
C'était Mémorable. Francis Ponge s'entretenait avec Philippe Solers.
Un chemin, un village, des hommes. Vous écoutez France Culture.
France Culture, partenaire du Festival international du film d'histoire de Pessac du 20 au 25 novembre. Une manifestation qui propose de confronter le regard du cinéaste à celui de l'historien. Pour cette 13e édition, de grands navigateurs comme Isabelle Autissier ou Yves Parlier apporteront également leur éclairage quant à la programmation consacrée à l'homme et la mer. 13e Festival international des films d'histoire, du 20 au 25 novembre, à Pessac et dans les émissions de France Culture. France Culture vous offre des places pour ce festival. 08 92 68 10 99, touche 2, puis rubrique place de spectacle, 0,34€ la minute. France Culture présente Traces de vie, 12e rencontre du film documentaire, du 18 au 24 novembre à Clermont-Ferrand et à Vic-le-Comte. Regard sur l'état du monde, pendant une semaine, le genre documentaire dans tous ses états, avec des thématiques, avenir vivable, cirque, documentaire radio. Rencontre du film documentaire, Traces de vie, à Clermont-Ferrand et à Vic-le-Comte, du 18 au 24 novembre, avec France Culture.
écoutez France Culture, il est exactement midi. Les titres du journal de 12h30 présentés par Jean-Claude Pajac. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Marc, au sommaire de ce journal, le pétrolier Prestige qui s'est brisé en deux ce matin au large de la Galice. Les autorités espagnoles redoutent maintenant une marée noire de grande ampleur.